poule vanille.
Je pense que je prends deux poules vanille.
Je sais pas. Deux poules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane. Bienvenue dans De Boule Vanille, votre rendez-vous radiophonique estival sur Canal B, tous les jours de l'été à 16h30 et en rediffusion le lendemain matin à 8h30. De Boule Vanille, c'est un programme éclectique et protéiforme concocté par les salariés et des bénévoles de Canal B. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le quatrième et dernier épisode de Femmes et Médias, les rencontres de l'égalité, un podcast produit par L'Onde Porteuse et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, le 25 février dernier, co-animé par la journaliste Julia Foyce et le fondateur de L'Onde Porteuse, Benoît Bouscarel. Ce jour-là, les deux structures ont organisé et animé un événement de table ronde, de reportage, de duplex, de chronique et de débat pour décrypter les liens entre droits des femmes, médias et démocratie. Cette journée d'échange était organisée en partenariat avec Equipop, Ouest France, Reporters sans frontières, Prenons la Une, l'agence La Fronde et L'Onde Porteuse. Canal B est associé à l'événement, c'est pourquoi je vous propose d'écouter les quatre épisodes enregistrés ce jour-là. Le quatrième et dernier épisode s'intitule « Le paysage médiatique dans un contexte de backlash ». Il s'articule autour des analyses de Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, d'Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières, et d'Alexis Lévrier, historien spécialiste de l'histoire du journalisme. Il sera suivi de l'interview de Dr Capote par Lucie Loipre. Oui, oui, vous avez bien entendu, Lucie Loipre.
Femmes et médias, les rencontres de l'égalité. Le paysage médiatique en période de backlash. Julia Foyce, Benoît Bouscarel.
CESE à l'occasion de cette session plénière Droits des femmes, médias et démocratie. Nous allons faire un tour d'horizon du paysage médiatique dans le contexte réactionnaire qu'on connaît aujourd'hui en France comme dans le monde. Avec nos invités, Benoît, je vous laisse nous les présenter.
Dans un moment, Julia, où la liberté de la presse est invoquée pour complètement annuler la liberté de la presse, pour la saborder, on va essayer d'y voir clair avec trois invités. Bonjour, Dominique Pradalier, on règle votre micro, mais vous allez pouvoir... prendre la parole. Vous êtes journaliste et vous êtes présidente de la Fédération internationale des journalistes. Très difficile, évidemment, de faire un tour du monde des atteintes à la liberté de la presse, de faire une photographie comme ça complète, précise, facilement, de ce paysage médiatique mondial dans un contexte de backlash, dans un contexte peut-être d'une internationale réactionnaire qui est en train de se mettre en place. Enfin, je dis peut-être, et je vois Alexis Lévrier déjà qui dit « oui, peut-être c'est ça qui est en train de se passer ». Mais quand même, Dominique Pradalier, si vous deviez nous donner peut-être un portrait, de brosser le portrait d'une journaliste peut-être, ou de deux ou de trois journalistes, de quelques journalistes qui sont en pointe dans les combats contre ce backlash qui est en route, vous prendriez quels exemples ?
Alors, ma jeune consoeur Saké, Nora m'a dit qu'elle était là. J'en trouve beaucoup. Mais ce qui me frappe, c'est que je suis d'une génération qui a conquis des droits. Difficilement, on les a conquis. Et puis la génération qui nous a suivis a considéré que c'était comme la télé, ça existait. Il n'y avait pas besoin de les défendre. Et c'est bien pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est qu'il a fallu deux générations pour que les jeunes femmes, et bravo et merci à elles, se lèvent en disant « ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Depuis le 21e siècle, nous sommes dans l'illusion de l'égalité. Nous sommes dans l'illusion de l'égalité. On nous le fait sentir assez. Et comme j'ai un vécu professionnel qui était assez long, je suis passée aussi par toutes les strates. J'étais rédactrice en chef très tôt, dans le service public, par choix. J'étais aussi militante syndicale. Alors vous pensez, pour ces messieurs, une femme. Rédactrice en chef, militante syndicale, je me suis quand même fait 5 placards, hein, dans ma vie professionnelle. Je veux dire, c'est pour ça que je comprends très bien maintenant les femmes qui se lèvent en disant ça suffit, c'est assez, il faut vraiment les vrais droits. Et la Fédération internationale des journalistes que j'ai l'honneur de présider, je suis la deuxième présidente en 100 ans, a organisé depuis le début du 21e siècle et même avant une commission du genre extrêmement active. Et nous, on fait tout à base de formation dans tous les pays. On fait tout à base de formation. On a fait des formations en Afrique, on a fait des formations en Europe, on a fait des formations absolument partout. Parce que pour nous, et le niveau de prise de conscience va de « ah oui, on va le faire » jusque « il faut changer toute la société ». Et vous avez parmi les femmes que nous rencontrons et les hommes, bien sûr, ces différents niveaux de réflexion. Et de plus en plus souvent, la majorité va jusqu'à dire faut vraiment transformer la société totalement, où que ce soit. Et ce n'est pas Monsieur Trump et ses amis qui sont en train de montrer le visage le plus hideux du machisme, revanchard, féroce, brutal, vulgaire, moche quoi. C'est pas eux qui nous font changer d'avis. Et pourtant, ils et elles, il y a des elles là-dedans, parce que je parle de l'extrême droite, vous m'avez comprise, ils et elles se lèvent un peu partout. Maintenant, vous l'avez dit dès le départ, Benoît, la santé d'un pays se voit à deux points extrêmement importants, la liberté de la presse et la situation des femmes. Nous en sommes là.
Merci pour ça, pour ce point. Et bonjour Anne Bocandé.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes responsable éditoriale de Reporters sans frontières. Dans votre dernier état de la liberté de la presse, qui a été publié il y a quelques mois,
oui, en mai,
avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, on a un état des lieux. Est-ce que cet état des lieux est complètement bouleversé depuis le mois de janvier par ce qui s'est passé aux États-Unis?
Disons qu'en effet, on a vu les prémices quand même des conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui de forces réactionnaires qui sont au pouvoir, puisque dans notre classement mondial pour la liberté de la presse, donc on publie tous les 3 mai, pour la première fois, on a vu, donc on le mesure avec différents scores sur la situation de la liberté de la presse, donc en fonction de la situation économique, la situation légale, la situation politique, et donc sur ces 5 critères, le critère qui a le plus baissé, c'est le critère politique, pour la première fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, l'année dernière, on a pu observer à quel point les forces politiques n'étaient plus des forces garantes de la liberté de la presse, là où c'est ce qu'on attend d'elles, mais bien aussi des forces attaquantes. Et on l'a vu dans des régimes autoritaires, bien entendu, c'est là où on attend souvent qu'on parle de cela, mais pas seulement. En fait, dans les démocraties aussi, on a vu aujourd'hui des forces politiques qui ne protègent plus, qui vont même contre, et là on voit tous les débats aujourd'hui qui mêlent liberté d'expression et liberté de la presse en confondant les termes. Donc mai 2024, quand on a sorti ce rapport-là, on a déjà vu les prémices. Il y avait déjà Javier Milei qui était au pouvoir. On avait déjà Giorgia Meloni qui arrivait avec ses attaques contre les médias. Et puis, ce que nous avons pu aussi constater, c'est que face à cela, le manque aussi de volonté de pouvoir contrer. On parle aussi notamment des régulations. On a beaucoup parlé, j'ai entendu, le cyberharcèlement dont sont victimes les femmes journalistes. Comment aujourd'hui les forces démocratiques aussi imposent des régulations aux plateformes notamment. Donc ce n'est pas nouveau, mais voilà, il faut y opposer quelque chose.
On constate que les femmes journalistes sont plus visées peut-être par des mesures de rétorsion à travers le monde.
Alors, nous avons sorti, donc vous allez découvrir dans quelques instants, vous l'avez peut-être déjà découvert, l'exposition sur le journalisme à l'ère MeToo. On avait déjà sorti 2 rapports dans les 10 dernières années, donc il est difficile d'identifier qu'il y a plus de violences, mais en tout cas, elles n'ont pas diminué, et on a pu voir, parce que nous, on était très intéressés dans le contexte, justement, de ces régressions en 2024, de se dire, 7 ans après, où on en est de MeToo dans le journalisme, puisqu'on était assez démoralisés aussi, quand même, d'un constat, se dire, mais quel a été l'impact véritablement à l'international, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et heureusement, on a pu constater qu'en fait, il y a des forces créatives et il y a des choses qui ont véritablement bougé. On en reparlera tout à l'heure, il y a un avant et un après MeToo, selon nous, dans le journalisme. Mais en effet, le backlash dont on parle, et c'est Yannick Bredoux qui en parlait aussi dans le rapport, ça va avec la visibilisation aussi.
Ouais. Il n'est pas certain, cela dit, on va en reparler, que la représentation des femmes soit gagnante en ce moment, hein, mais on y reviendra. J'accueille d'abord notre invité, Alexis Desvrier. Bonjour et merci d'être avec nous, historien. On avait envie d'avoir votre point de vue aussi pour tracer des perspectives historiques et que vous nous disiez peut-être, Alexis Desvrier, si on a déjà vécu une période telle que celle qu'on est en train de voir advenir.
Ce qui est inquiétant, c'est que c'est international, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène massif dans les démocraties européennes, mais maintenant également aux États-Unis, et avec un peu les mêmes ingrédients, c'est-à-dire des empires médiatiques qui se construisent en lien étroit avec des projets politiques qui sont transmédiatiques, c'est-à-dire qui s'appuient sur les médias audiovisuels, qui s'appuient sur la presse écrite, qui s'appuient sur l'édition, c'est plus sur la communication, sur la publicité, et aussi avec Musk, on le voit bien, sur les réseaux sociaux. Et donc ça leur donne une puissance de frappe qui est sidérante. Et ils assument assez clairement un projet politique. C'est le cas de Musk en ce moment. C'est le cas traditionnellement de Murdoch, même s'il reste caché, mais actuellement il serait presque en retrait. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui va finalement nous sauver. Ce serait un sacré paradoxe, mais
n'allons pas trop vite, Alexis.
Oui. Non, mais on essaye d'avoir des lueurs d'espoir. En tout cas, il y a des mots très durs dans le Wall Street Journal, par exemple, dans des journaux qui appartiennent à Murdoch, et même dans le New York Post, même des tabloïdes.
Il remonte qui est le dictateur dans l'histoire. Hein, avec,
pardon.
Il est en train de faire des unes pour dire c'est Poutine le dictateur.
Oui, c'est ça. Et essayer d'éviter cette réorientation de la politique américaine sur un axe poutiniste, quoi, en tournant le dos aux vieilles alliances. C'est quelqu'un qui est présent à l'échelle mondiale, Murdoch, et qui, je pense, n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait cet éloignement entre l'Europe et les États-Unis. Donc il y a aussi ça. Il y a la cohérence de son groupe. Nous, on a une situation qui, à l'échelle française, rappelle un peu, avec d'autres armes, d'autres outils, ce qu'on a pu vivre entre l'affaire Dreyfus et la collaboration. Je pense que c'est un moment de notre histoire, 5 à 6 décennies, où l'extrême droite a dominé les médias. Elle était pas seule. Il y a la preuve, on a tous en tête la une de l'Aurore du 13 janvier 1898. Mais enfin, elle était extrêmement puissante et elle a modelé le débat public dans des périodes aussi bien de la Belle Époque que de l'entre-deux-guerres et évidemment de la collaboration. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la mort de Dreyfus La Rochelle, il y a la mort de Brasillach, et puis il y a la délégitimation de toute cette extrême droite-là. Ce sont des gens qui passent dans l'ombre, qui disparaissent, qui écrivent sous pseudonyme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, l'extrême droite médiatique. Ça veut dire qu'elle n'est plus mainstream. Des journaux comme Minute ont pu tirer à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est ce que disaient des proches dans les années 80, on le lisait avec la nausée et les mains sales. Donc c'était une situation un peu étrange, où l'extrême droite continuait en fait à peser, à exister en tout cas, mais on la tenait un peu à l'écart. Et pour moi, il y a un moment marquant qui est avant l'arrivée du groupe Bolloré, qui est en 2012, le choix d'Yves de Kerdrel, qui n'est pas du tout un homme d'extrême droite par ailleurs, qui arrive à Valeurs Actuelles et qui choisit d'en faire un journal d'extrême droite. Et d'une manière très spectaculaire, avec des unes qui vont renouer avec l'imaginaire de la Belle Époque. Simplement, c'est plus le même ennemi de l'intérieur, plus personne ne peut avouer son antisémitisme aujourd'hui. Donc on désigne un autre bouc émissaire qui va être les musulmans, les étrangers d'une manière générale, les Roms, un corps étranger à l'intérieur de la nation dont la nation doit se débarrasser pour retrouver sa pureté originelle. Voilà. C'est cette mécanique-là, et c'est pas un homme d'extrême droite qui l'a voulu. Et c'est lui qui lance Geoffroy Lejeune, qui lance Charlotte Dornelas, et tout le talent de Bolloré après, quand il conquiert Canal+, qu'il transforme une télé en CNews et qu'il donne ce rôle très spécifique à Cyril Hanouna, ça va être d'agglomérer cette extrême droite-là. Et donc des titres qui seraient restés assez marginaux, qui ont toujours existé, L'Incorrect, Causeur, Boulevard Voltaire, c'est des titres qui ont toujours existé en réalité, mais qui vont avoir une exposition médiatique immense parce que Bolloré l'a voulu. Aujourd'hui, on a un deuxième empire d'extrême droite qui tente de se construire, c'est celui de Pierre-Édouard Sterrin, mais je crois qu'il est beaucoup moins habile que Bolloré, il parle trop. Et surtout, on est instruit par l'expérience. La presse classique a fait son travail, l'Humanité, Le Monde, a révélé le projet Périclès, et ce projet qui est clairement un projet de nature politique qui vise à conquérir le pouvoir en utilisant les médias. Et il a échoué pour l'instant, aussi bien à Marianne qu'au sein du groupe Baya, pour notre question d'aujourd'hui, ça, la question des minorités, la question des violences sexuelles, le groupe Bayard a fait tout un travail sur la pédophilie dans l'Église, sur son propre passé, d'abord qu'un passé anti-Dreyfusard, aussi bien à la croix qu'au pèlerin. Ils disent plus jamais ça. On veut pas renouer avec ça. Et on veut pas faire pour les musulmans ce qui a autrefois été fait pour les juifs. Et l'arrivée d'Alban de Rostu, qui est en fait l'ex-bras droit de Sterrain, aurait signifié de renouer avec cette période-là. Et ils ont pas voulu. Ils se sont battus. Avec beaucoup de courage, je trouve, et sans le soutien des politiques. Ce qui est très inquiétant dans cette période aujourd'hui, pourtant l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, c'est que le pouvoir politique actuel ne se donne pas les moyens de défendre les rédactions. Ouais. Il y aurait un moyen simple qu'on appelle le droit d'agrément, qui avait été proposé, en plus il y a une proposition de loi transpartisane après la reprise du JDD. Ça permettrait en fait à une rédaction d'empêcher la nomination d'un directeur de la rédaction s'il y a, mettons, 2/3 de la rédaction qui s'oppose. Et ça, il y avait une proposition transpartisane, gauche, centre-droit, et c'était autour de Sophie Taillé-Polien, effectivement, mais avec des macronistes, des gens d'Édouard Philippe. Bon. Et les EGI, les États généraux de l'information, dans les commissions, ont proposé le droit d'agrément, mais pour des raisons opaques, dans la restitution finale des travaux. Enfin, c'est pas opaque, d'ailleurs, parce qu'ils disent c'est pour ne pas heurter la liberté de l'actionnaire. Bon, donc, au moins, les choses sont dites. On a finalement renoncé au droit d'agrément. Ça veut dire que personne n'a défendu Bayard, personne n'a défendu Marianne. Ce sont des rédactions qui sont battues toutes seules et le pouvoir politique n'est pas là. Il ne fait même plus appliquer les lois. Là, ce qui se passe avec C8, c'est l'application de la loi de 1986 qui a été votée par la droite. C'est la loi Léotard.
C'est la loi Léotard.
Et elle est contestée aujourd'hui par la ministre de la Culture, par Laurent Wauquiez, par Bruno Retailleau, qui sont de cette famille politique-là. C'est assez sidérant.
On va revenir là-dessus, Alexis Desbrieux. On parlera aussi de loi sur la qualité de l'information.
Pour poursuivre cet état des lieux sur la question de la représentation des femmes dans les médias, non seulement elle ne stagne pas, mais elle régresse en France aussi. C'est ce qu'indique le GMPP, le Global Media Monitoring Project, ce qui pose de nombreux problèmes en cascade, évidemment. Alors, pour éclairer nos débats, on a demandé à Marlène Coulon-Gulli, chercheuse en communication politique à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, d'analyser une situation qui est d'autant plus pernicieuse qu'elle dépend désormais des algorithmes de grands groupes très puissants.
Les technologies de pouvoir se caractérisent par leur inertie, leur résistance au changement. Il n'y a pas de progrès. Et la dernière étude du GMMP montre non seulement qu'on ne fait pas mieux dans le pourcentage de représentation des femmes, mais qu'on régresse. Il n'y a pas de progrès linéaire, l'évolution est extrêmement erratique, mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que sans volonté politique, sans prise de conscience, on n'arrivera pas à faire évoluer les autres. Et il faudra beaucoup plus que des bonnes paroles pour réussir à imposer cette juste représentation qui me paraît vraiment être au fondement d'un fonctionnement démocratique. Comment imaginer qu'on puisse avoir une démocratie qui fonctionne quand les systèmes de représentation sont grippés ou à ce point biaisés? Je voudrais quand même rappeler 3 points concernant les médias. Premier point, les médias sont constructivistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne retranscrivent pas fidèlement le monde qui existerait en dehors d'eux, ils l'interprètent. Parole d'un philosophe remarquable, le chat de Gueluc, qui nous dit que quand les gens lisent le journal, ils croient prendre ce qui se passe dans le monde. En réalité, ils n'apprennent que ce qui se passe dans le journal. Deuxième point, les médias sont hyper réalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils minorent les groupes socialement faibles, dont les femmes, les personnes racisées, etc. Et ils majorent les groupes socialement forts, dont les hommes, les personnes blanches, etc. etc. Et troisième point, et c'est probablement le plus important quand on pense à la responsabilité des médias, les médias sont performatifs. Ça veut dire qu'ils contribuent à la construction de notre réalité. Les médias participent du processus de socialisation des individus, ce que résume très bien la formule de l'actrice Gina Davis, qui est engagée dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle dit « If she can see it, she can be it ». Si elle la voit, elle s'y voit. Et priver les femmes, faute d'une juste représentation de modèle, eh bien c'est d'une certaine façon amputer leur avenir.
Marlène Coulon-Gullier au micro de Pauline Ferrari-Berthelot et de Judith Hazan.
Ça pourrait être désespérant, ce constat pourrait être un peu dramatique, Dominique Pradalier, mais je vous sens combative plus qu'autre chose. Je vous ai vu réagir à ce que disait Marlène Coulon-Gullier.
C'est très intéressant parce que elle décrit exactement, sans les mots que moi j'utiliserais, mais chacun a ses mots, les rédactions sont maintenant formatées. Il y a quelques années, Monsieur Ruffin avait écrit les petits soldats du journaliste en montrant que les écoles de journalisme formataient. Alors, c'était des individus. Maintenant, ce sont des rédactions qui sont formatées avec des hiérarchies assez incompétentes en matière de déontologie, mais très compétentes en matière de surtout pas de vagues. Surtout pas de vagues. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire des vagues? Quelque chose qui passerait dans le dissensus. Il faut un consensus mou général. Et comme l'on parlait tout à l'heure de l'objectivité qui ne sert qu'à la subjectivité des puissants, le consensus mou sert évidemment aux puissants qui, je vous le rappelle, possèdent les rédactions, possèdent, puisque les milliardaires possèdent les médias. Donc là-dedans, dans ces rédactions-là, il y a forcément ce qu'on appelle des francs-tireurs. Et là, je reviens à mon amour pour les mots. Tout à l'heure, Madame Belhadad en parlait très bien, et d'autres aussi. Depuis quelques années, on utilise un vocabulaire militaire. Vous êtes une cible. C'est votre arme préférée. C'est etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces vocabulaires militaires de mec? Moi, je dis, on est concerné. On a des possibilités, des atouts à faire jouer. Mais tout ceci nous ramène à un univers qui, en matière de backlash, c'est-à-dire de retour de bâton, fait que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand je citais Trump, je parlais de revanchard, qui non seulement veut reconquérir un pouvoir que les machistes estiment avoir plus ou moins perdu, mais veulent surtout prendre leur revanche. Ça suffit, les bonnes femmes. Moi, j'ai vécu ça. Quand au début des acquis, les messieurs venaient vers nous en nous disant, excuse-moi, cher ami Lévrier, en disant, bah oui, bien sûr, etc. Quand il s'est trouvé que nous étions égales, eh ben, à leurs yeux, nous étions des rivales. C'était pas l'égalité, on était des rivales. Et la lutte au couteau a recommencé dans le dos. Immédiatement. Et les droits des femmes, simplement droit à l'égalité, c'est comme tous les autres droits. Si on ne les défend pas, jour après jour, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petites allusions, il n'y a pas de petits mots de travers. Tout doit être normalement vécu entre hommes et femmes dans une société organisée.
Merci de le rappeler. Mais il y a des combats, Dominique Pradalier. Et Anne Bocandé, j'ai envie de vous demander de nous donner un peu d'espoir. Là, on arrive à la conclusion de cette émission. Il y a quand même énormément d'initiatives qui se font jour et qui travaillent sur les questions d'égalité.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'à Reporters sans frontières, on est assez convaincus qu'il y a des moyens d'action. Je pense qu'Alexis Lévrier en a parlé. Il y a du fait politique. On peut, et quand le lien avec la démocratie, là, il est fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Quand on parle de solutions, l'Union européenne, il y a quelques mois, a adopté une directive sur le cyberharcèlement contre les journalistes femmes, en faisant en tout cas du cyberharcèlement contre les journalistes femmes une circonstance aggravante et en incitant les États à appliquer des réponses pénales sur ce genre de violence. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Concrètement, et elles viennent en partie du politique. Ensuite, il y a en effet, pareil sur la question de la défense du pluralisme à l'antenne, de l'indépendance, de la fiabilité, ce sont des combats qui restent à mener, mais ils sont concrets. Ils nous appartiennent aussi d'en prendre part. Et puis ensuite, sur les notes d'espoir, en effet, nous on l'a vu quand on a travaillé sur le rapport MeToo, non seulement il y a des médias qui existent depuis des décennies sur la question de la défense des droits des femmes, sur les violences de genre, sur les violences sexistes et sexuelles, on a retrouvé évidemment des médias dès les années années 60 au Sénégal, des médias en Belgique, des médias au Brésil. Donc il faut aussi aller regarder du côté de ces histoires-là, dans lesquelles on s'inscrit aussi avec aujourd'hui toute une nouvelle génération de médias, et encore une fois, à l'international. Parce que nous, c'était important aussi de travailler à l'international, parce qu'il y a eu beaucoup, et même en interne, on a beaucoup discuté, est-ce que c'est un mouvement occidental ou pas, de quoi s'agit-il à l'international. Et il faut aller regarder de plus près, puisqu'il y a nos consoeurs et nos confrères aussi s'organisent pour visibiliser ces sujets-là et bouleversent et font bouger les lignes. On l'a vu au Nigeria avec une journaliste aussi, Kiki Mordi, que vous allez retrouver dans l'exposition, qui a fait une enquête incroyable sur les violences, des violences sexistes et sexuelles dans une université, qui a fait bouger la législation au Nigeria. C'est concret. Quand on parlait du journalisme performatif, c'est très concret. Alors elle en paye le prix aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est important de aussi visibiliser son histoire, lui rendre hommage, puisqu'elle en paye le prix pour nous avoir informés, pour nous informer sur ces sujets-là. Donc continuons de visibiliser le travail de nos consoeurs, continuons d'être à leur côté aussi. Il y a des médias, il y a des journalistes qui font ce travail-là, il faut les soutenir, par aussi des financements, hein, puisque nous on appelle aussi dans nos recommandations à du soutien aussi concrètement sur du journalisme d'investigation, sur ces sujets-là, sur différentes bourses, sur voilà, il y a des moyens d'agir.
Convention de l'OIT 190 contre les violences et le harcèlement doit être connue, expérimentée, défendue et utilisé par toutes et tous, je vous trouverai certainement très facilement. Il faut savoir dire non, il faut savoir s'organiser, et je pense que cette réunion dont je remercie le Conseil économique et social d'être à l'origine, doit déboucher sur quelque chose, doit déboucher sur des actes, peut-être une coordination légère de travail. L'idée du baromètre qui a été tout à l'heure instaurée ici.
Le verbomètre.
Nous, la Fédération internationale, dont je vous rappelle qu'elle représente à peu près 600 000 journalistes dans le monde, on a fait tout un schéma de rewriting the story, c'est-à-dire réécrire l'histoire. À chaque journaliste, on lui demande, vous poseriez la même question à un homme, une femme ? Oui, non, etc. Allez voir, ce sont des petits clips très, très, très simples. Et puis, pour aller dans le sens d'une des intervenantes précédentes aussi, je me demande si on ne pourrait pas avoir des actions de groupe contre le harcèlement en ligne. Parce que ce serait probablement une des façons de pouvoir désisoler nos consoeurs qui sont massivement victimes, aussi bien en France qu'ailleurs, de ces difficultés, qui le vivent comme vous pensez très mal, parce qu'on est chez soi et tout d'un coup on a l'impression que quelqu'un vient de rentrer avec un pistolet contre vous. C'est affreux, je veux dire, il faut savoir ce que c'est d'être poursuivi, et peut-être des actions de groupe pourraient nous aider. Et puis enfin, encore une fois, la formation des hommes et des femmes au bon vocabulaire, des journalistes au juste vocabulaire, c'est-à-dire reprenez vos mots, dis-je à tous les élèves de journalistes. Ne prenez pas le mot de l'une ou des parties pour les femmes que pour autre chose. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que le journaliste doit être à l'écart, c'est un observateur, une observatrice, mais en plus parce qu'il ne doit pas être soupçonnable d'un parti quel qu'il soit. Et puis troisième chose, en cherchant le juste mot, ça l'oblige à réfléchir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer.
Merci. Merci beaucoup, Dominique Pradali. Un mot, Alexis Lévrier, l'histoire n'est pas forcément condamnée à se répéter. Je ne sais pas comment vous pouvez nous rassurer là-dessus.
J'espère qu'elle ne va pas se répéter. On va essayer de ne pas être pessimiste. Il y a des initiatives positives. Moi, j'admire beaucoup le travail de Reporters sans frontières. J'ai une pensée pour Christophe Deloire aujourd'hui, comme souvent, parce qu'il a porté des combats à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale. Et si on a pu révoquer la fréquence de C8 ces jours-ci, ce qui a valu à RSF des attaques du groupe Bolloré par l'intermédiaire d'une agence d'agitprop qui s'appelle Progressive Media, je pense que Christophe est mort sans savoir qu'il était que les milliers de comptes qu'il attaquait tous les jours en fait venaient de là. Et donc c'est un combat tout à fait méritoire et qui a été couronné de succès. C'est pas une censure, c'est l'application de la loi de 1986. Et donc on le doit à RSF qui fait vraiment un boulot formidable. On a parlé des écoles de journalisme un petit peu, des formations, et c'est vrai qu'elles sont toujours contestables. C'est un travail à améliorer. Mais moi, je pense du bien de ce que font les écoles reconnues. Il y a 14 écoles reconnues, il y en aura bientôt une 15e. Elles sont très sérieuses, les prix sont modiques pour les boursiers. Parfois, c'est des prix, quand c'est des formations universitaires, il y en a beaucoup qui sont universitaires, c'est le prix d'une inscription à la fac.
Elles sont d'autant plus importantes, ces écoles, qu'elles sont aussi attaquées maintenant. Enfin, oui, et justement. L'extrême-droite commence aussi à s'intéresser à la formation des journalistes.
Exactement, et c'est bien parce que c'est un des domaines qui résistent, parce qu'elles font un travail assez exemplaire, et elles sont très féminisées. Enfin, les étudiants sont largement des étudiantes. Là où Nora Hammadi a raison, c'est-à-dire qu'il y a encore une conquête, c'est la diversité ethnique, religieuse, etc. Là, c'est quand même très blanc encore, de manière très majoritaire. Et le journalisme doit davantage refléter la société dans sa diversité. Et ça, c'est encore un combat à mener. Il y a la chance au concours, il y a la prépa du Bondy Blog à l'ESG de Lille. Donc il y a des initiatives, mais elles sont encore insuffisantes. Mais là où on doit avoir une inquiétude pour ce qui est de la formation, c'est effectivement que l'extrême droite a parfaitement compris que tout se jouait dans la formation. Et donc elle a lancé une école qui s'appelle l'ILDJ d'abord, Institut Libre du Journalisme. Donc ça, c'est dans... vraiment... Mais c'est pas une école autonome, en fait. Elle complète des formations qui existent déjà, mais avec une ligne très offensive sur le plan idéologique. Et la plus ancienne école de journalisme, qui est l'ESJ Paris, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, ce n'est pas une école reconnue, et elle joue beaucoup de la confusion avec l'ESJ Lille. L'ESJ Lille est une excellente école. L'ESJ Paris, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Et donc, elle était très chère. En général, quand vous payez cher dans une école de journalisme, c'est que c'est pas une bonne formation. C'est jamais un bon signe. Et là, moi, j'avais été contacté par des étudiants. Ils découvraient en plein cours d'année, alors qu'ils payent 10 000 euros par an, que, en plus, ils sont rachetés par Bolloré. Alors pas que Bolloré, il y a aussi les autres grands maniers de la presse, et devait y avoir ce terrain, ou en tout cas Alban de Restu, par l'intermédiaire du groupe Bayard. Et donc, comme la reprise de Bayard a échoué, le groupe Bayard s'est retiré de ce projet, mais Vianney d'Alençon, qui va diriger cette école, il est clairement dans une logique de conquête idéologique, et il propose un deal aux étudiants, en fait. Il y a des étudiants qui ne sont pas du tout marqués à l'extrême droite, mais il leur dit, bon, vous payez très cher votre scolarité, et on sait qu'après, vous avez du mal à trouver du travail. Beaucoup de journalistes veulent vivre à Paris, c'est de plus en plus compliqué. Là, vous allez aller faire des stages à Europe 1, sur CNews, et vous serez embauché dans la foulée. Vous ferez des alternances qui déboucheront sur un emploi. Donc c'est une sorte de pacte faustien qu'on propose à ces étudiants. Grosso modo, on vous propose du travail, bien rémunéré, mais vous oubliez les raisons pour lesquelles vous êtes venu au journalisme.
La vigilance doit rester de mise. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Merci à tous les trois. Merci Dominique Pradallier, Anne Bocandé. Merci.
Merci. Merci à tous les trois.
Et c'est la fin de cette émission, déjà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces 2h30 de direct depuis l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. Et on aimerait simplement dire un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité qui ont pensé et organisé cette journée, à sa présidente notamment, Agathe Hamel. À la réalisation aujourd'hui, on peut l'applaudir. À la réalisation aujourd'hui, c'était Francisque Brémond et Sébastien Morvan de L'Onde Porteuse, Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coway et Alexandre Langevin.
On ne citera pas, on ne peut pas l'ensemble des radios associatives partenaires de cette journée au CESE, mais on les remercie infiniment. Une quinzaine ont pu diffuser nos débats en direct et au total 68 les diffuseront d'ici le 8 mars.
La participation d'ailleurs... Et c'est important, la participation de ces médias indépendants, c'est l'occasion de montrer qu'on a encore en France un paysage médiatique diversifié. On l'a déjà dit, mais je le redis, pluraliste, et qu'il faut le préserver, ce paysage. Au total, il y a 600 radios associatives en France qui fonctionnent, qui font un boulot incroyable et qui sont quand même très inquiètes par les menaces sur l'existence du fonds de soutien à l'expression radiophonique qu'il faut absolument conserver pour préserver cette pluralité et ces radios. Merci pour elle.
Au passage, un grand merci à Besma Saïdi, journaliste à L'Onde Porteuse, qui a coordonné l'opération avec ses 68 radios. Mentionnons également la plateforme de podcast de Ouest France, également partenaire de cette journée, et qui diffusera nos échanges. Merci à toutes, merci à tous.
Merci Julien.
Un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE qui ont pensé et organisé cette journée et à sa présidente, Agathe Hamel. Les 4 épisodes de Femmes et Médias sont à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Présentation, Julia Foyes et Benoît Bouscarel. À la réalisation, Francisque Brémond et Sébastien Morvan de L'Onde Porteuse et Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coué et Alexandre Langevin.
Femmes et Médias.
Femmes et Médias.
Femmes et Médias.
Une production L'Onde Porteuse.
Pause musicale dans De Boule Vanille sur Canal B. On écoute Sam Sauvage, La fin du monde. Sauvage, la fin du monde sur Canal B dans De Boule Vanille. Lucie Loipre, ex-journaliste de Canal B et toujours membre du collectif Parents et Féministes, a interviewé dans le cadre de ses activités militantes Didier Valentin, aka Docteur Capote, pour celles et ceux qui ont l'habitude de lire ses papiers dans le magazine Cosette. Cet ancien militant de la lutte contre le sida au sein de l'association Solancy est spécialiste des violences sexistes et sexuelles, du consentement, de la contraception, des IST et MST. Docteur Capote, aka Didier Valentin, est animateur de prévention sur la sexualité et les conduites à risque. Il est l'auteur de Pubère la vie à l'école des genres, aux éditions du Détour, livre dans lequel il aborde tous les sujets tabous et sensibles, de la pornographie à la religion, et offre un portrait de la jeunesse qu'il côtoie quotidiennement. Didier Valentin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Didier Valentin. Vous êtes mieux connu sous un pseudonyme, celui de Docteur Capote. Vous êtes animateur de prévention en et hors milieu scolaire et l'auteur de Pubère la vie à l'école des genres. C'est un ouvrage qui a été publié en 2023 et réédité tout récemment dans un format poche aux éditions du Détour. L'association Parents et Féministes, dont je suis membre, va faire gagner plusieurs exemplaires. Tout le détail est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Alors dans cet ouvrage dont on va parler là pendant l'échange qui suit, vous racontez votre entrée en militantisme pour commencer. Il y a d'abord eu la rencontre avec Sol Ancy, Solidarité Enfant Sida, où vous avez reçu votre baptême féministe. Et puis plus tard, vous avez poursuivi vos engagements. Vous travaillez aujourd'hui au CRIPS, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida. Votre seconde intronisation au féminisme, vous la liez à votre activité de rédacteur de chronique dans le magazine Cosette. Peut-être que des personnes qui nous écoutent vous ont découvert dans ce magazine-là, qui est en ce moment dans une phase de difficulté financière, on détaillera pas. On revient donc au livre Pubère la vie. Il raconte aussi ce qu'il vous a fallu déconstruire pour être le meilleur allié possible, en tout cas. C'est toujours un travail qui est en cours, vous diriez ?
Oui, toujours, oui. Enfin, qui nécessite une vigilance continuelle, je dirais.
Est-ce qu'on peut détailler un petit peu sur la déconstruction, sur tout ce parcours-là, depuis vos découvertes du féminisme ?
Oui, c'est déjà le fait de travailler au quotidien avec une majorité de femmes. Que ce soit dans le social ou à Cosette, j'ai travaillé exclusivement avec des femmes féministes, engagées, militantes, autrices. Donc ça fait beaucoup d'infos à digérer pour le coup, parce que comme tous les garçons, j'ai pas forcément été, enfin comme beaucoup de garçons, puisque les choses changent a priori, j'ai pas été éduqué dans une famille où la question de l'égalité et du féminisme était très présente, bien au contraire, puisque moi j'ai été éduqué dans une famille où les violences conjugales étaient quotidiennes, et c'est vrai que ça a été un apprentissage assez important dans ma construction dans un premier temps, et ensuite dans ma déconstruction ou tentative de déconstruction, c'est-à-dire d'interroger tout ce que je pouvais traîner comme casserole de ma masculinité probablement toxique sur certains endroits.
Alors ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que vous exercez ce métier d'animateur de prévention, beaucoup avec un public de 3e et de 2e, dans des filières générales mais aussi professionnelles, et aussi dans des structures spécifiques. On peut citer les foyers de l'aide sociale à l'enfance ou encore la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ce qui ressort de votre ouvrage, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous menez pas deux ateliers de la même manière en fonction du public qui est en face de vous, du bagage qu'il a déjà sur les sujets qui sont évoqués, des parcours de vie, parfois d'exil, c'est évoqué en fin d'ouvrage.
Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai pas envie de tomber dans une routine d'atelier où je ferais continuellement les mêmes choses. Je passe beaucoup de temps en veille documentaire, et entre autres sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je chope pas mal de vidéos, d'informations que les jeunes peuvent échanger. Et j'essaie de travailler à partir de ce qu'ils voient ou ce qu'ils peuvent entendre. Donc c'est en mouvement continuel, en fait. Donc, après ça, là, j'élabore des débats, discussions, échanges à partir de ces vidéos. Donc, c'est vrai que ça, forcément, les séances sont pas du tout les mêmes. Et puis, c'est vrai que je l'adapte aux différents publics. En fin de collège, je ne fais pas la même chose qu'au lycée, comme je ne fais pas la même chose avec des jeunes qui sont incarcérés, par exemple, puisque les parcours de vie ne sont pas les mêmes. Donc, c'est intéressant Moi, je pense que c'est important de m'adapter effectivement à mon public. Je voulais juste revenir sur le début, on avait parlé du CRIPS. Je ne suis pas à plein temps au CRIPS, hein, c'est un nombre d'heures par mois, ce qui fait que ça me laisse une marge pour aussi intervenir de manière personnelle dans d'autres structures et ailleurs qu'en Ile-de-France, puisque le CRIPS ne travaille qu'en Ile-de-France.
Vous avez aussi un peu cogité sur la façon d'amener les sujets de prévention sur la vie relationnelle, affective et sexuelle auprès des jeunes, et notamment aux jeunes hommes, aux jeunes garçons. Vous vous êtes rendu compte que particulièrement aujourd'hui, ça fonctionnait plus de leur amener les sujets de féminisme par ce que subissent les filles et les femmes, mais qu'il fallait venir leur parler de ce que le patriarcat leur fait à eux personnellement.
Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. D'abord, je suis un homme, cisgenre hétéro. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes pour travailler sur la masculinité, parce que dans un métier où il y a très peu d'hommes, les hommes qui sont souvent présents, qui travaillent sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, ou qui s'engagent sur ces questions-là, pour beaucoup, sont des hommes issus des minorités de genre, en fait, des hommes trans ou des hommes gays, et c'est vrai qu'engagés depuis la lutte contre le sida, et c'est vrai qu'on est très très peu en hommes cisgenres hétéros, mais c'est vrai que les médias intervenaient beaucoup sur les questions LGBTQIA+, essentiellement, donc c'est vrai que la demande elle est forte. Alors moi j'essaie d'y répondre, et c'est vrai que j'ai pas mal tourné en rond sur la manière de sur les angles qu'on pouvait aborder pour pouvoir intéresser ces jeunes garçons qui globalement se sentent très très attaqués depuis dans leur masculinité depuis MeToo en fait. Et surtout à la question que je leur pose souvent, est-ce que vous avez des choses à gagner dans l'égalité et puis dans plus d'égalité ou d'une éducation plus féministe? Pour l'instant, ils répondent pour beaucoup à rien. Donc, tant qu'ils n'ont rien à gagner, je me dis qu'on n'arrivera pas à les faire bouger un peu. Donc, c'est vrai que travailler sur ce que cette masculinité toxique détruit en eux, enfin, comment elle fait du mal dans leurs relations, c'est-à-dire que déjà entre eux, puisque moi je vois, je travaille et je vis beaucoup en Seine-Saint-Denis, où malheureusement les phénomènes de violence entre jeunes, que les médias appellent les rixes et qu'on appelle plutôt les embrouilles, les descentes, font quand même pas mal de dégâts. Donc déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que cette violence elle se dirige entre eux, et puis dans un second temps, elle se dirige vers les femmes et les minorités de genre.
Je crois qu'au début j'en faisais trop, du genre allié de la cause qui découpe l'ennemi plus vite et plus fort que les concernés. Les mecs ne comprenaient pas vu que je leur présentais l'addition des générations précédentes. Plutôt que de découper le masculin à grands coups de sécateur, il convenait d'interroger l'expression de ces dites masculinités et surtout la façon dont elles le font dans le champ intime mais aussi social. En tant que parent aujourd'hui, il peut être un peu difficile de s'imaginer ce qui se passe dans ces séances-là que vous animez, donc on le découvre en vous lisant. Vous aviez aussi été filmé dans un documentaire de France Télévisions il y a quelques années, Classe Libre, c'est son titre. Et clairement, que ce soit en vous lisant, en regardant le documentaire, on réalise que ces séances, elles peuvent être sportives, parce que les prises de parole, elles évoquent parfois des sujets conflictuels, durs, aussi parfois de façon crue ou provocante. Donc vous, avec ces élèves, vous encaissez parfois des coups et vous privilégiez, en tout cas c'est l'idée, toujours le dialogue plutôt que d'être dans la moralisation avec ces jeunes-là.
Oui, bah oui, de toute façon la moralisation ça marcherait pas, hein, très clairement. Donc l'idée c'est de privilégier le dialogue, voire des fois de tirer les fils de ce dialogue le plus loin possible, avec quitte à se faire un peu mal, mais l'idée c'est de travailler quand même sur leur représentation et pas de sortir un peu l'arsenal juridique par exemple rapidement. Qui bloquerait cette parole et ces questionnements. Moi, je leur dis toujours que c'est un espace entre parenthèses, en fait, où ils ont quand même le droit de dire pas mal de choses. On peut aller assez loin dans les débats, les discussions, avec des fois des propos qui peuvent être très dérangeants. L'idée, c'est de les travailler. Je leur dis attention, il y a des propos qui, en dehors de cette parenthèse, relèvent de la loi et peuvent vous attirer de gros soucis, en fait. Ne serait-ce que, par exemple, plus tard dans le monde du travail. Les propos, je pensais aux propos homophobes, hein, transphobes, sexistes. Mais dans cet espace-là, je me dis qu'il faut qu'on tire un maximum les fils du débat pour pouvoir travailler vraiment sur le fond de leur représentation et comment on peut s'interroger ensemble pour faire évoluer les choses. Ça bouffe beaucoup d'énergie, effectivement. J'y laisse pas mal d'énergie. C'est vrai qu'en fin d'année, je suis un peu cuit. C'est le cas aujourd'hui, par exemple. mais je pense que c'est nécessaire. Moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce métier, c'est de pouvoir bousculer les choses. Et j'ai un avantage en étant extérieur à l'éducation nationale, parce qu'on parle beaucoup de l'EVARS, enfin du programme donc à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est qu'en étant extérieur, je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans les débats que les profs, par exemple, qui sont peut-être un petit peu, qui peuvent être un peu enfermés par le poids de l'institution et les règles internes que moi je peux bousculer un peu plus.
Donc Evars, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on y reviendra en fin d'échange. Vous avez dit que vous terminiez un peu l'année sur les rotules, parce que c'est un métier quand même assez engageant, avec des séances qui peuvent être assez animées, assez sportives. On peut imaginer qu'il y a peut-être vous êtes partagé entre la goutte d'eau que peuvent représenter ces séances dans l'océan d'informations dans lequel baignent ces jeunes, et quand même ce qu'on lit dans le livre, des moments de réelle prise de conscience, ou en tout cas où le message passe et où ça fonctionne quand même souvent.
Oui, moi j'y crois encore, enfin heureusement. Mais je pense qu'il faut qu'on conserve cette partie de aller vers, en fait. Il y a énormément de choses sur Internet, mais qui finissent très rapidement dans l'entre-soi des personnes qui se connaissent, qui se suivent entre elles. Et le aller vers, il nous permet d'aller toucher des jeunes qui ne sont pas forcément sur les mêmes réseaux d'informations que les adultes, en fait, qui diffusent cette information. Donc, et des fois, on a aussi des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'effectivement, des jeunes qui vont avancer dans leur représentation. Moi, j'ai une prof de français qui m'a envoyé un message très sympathique il y a 2-3 jours, où à l'oral du brevet, elle a eu des jeunes qui ont parlé des séances, en fait, des garçons, qui n'étaient pas forcément faciles en animation, en plus. Je me souviens très bien d'eux. Mais finalement, ils ont intégré 2-3 trucs et ils s'en sont servis à l'oral. Et ce n'était pas de la posture, c'était vraiment qu'ils avaient, ça amenait une réflexion chez eux. Donc ça, c'est cool, c'est bingo. Après, il y a aussi, malheureusement, de l'autre côté, mais qui est important aussi, c'est l'émergence des fois de témoignages avec des jeunes qui vont témoigner à la fin de violences sexuelles subies. Du coup, on peut mettre en place derrière un accompagnement, un signalement, c'est des choses qui auraient pu perdurer, en fait, et qui peuvent les handicaper longtemps dans leur silence, en fait. Donc
c'est une autre utilité, finalement, des séances de prévention, ouais, d'avoir un espace où déposer certaines choses, quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, il y a pas longtemps, j'étais au Mans dans un collège. J'ai eu trois jeunes filles qui sont venues et on a pu lancer effectivement des signalements.
Le langage guerrier s'installe parfois dans le discours des garçons pour parler de sexualité et affirmer ainsi leur virilité. Quand tu troues la meuf, tu lui fais un massacre, tu la tues, tu la déboîtes avant de cracher, tu tapes dans les boyaux. Certains ne font pas dans la poésie, et je me dis que si cela peut être vécu comme un surplus d'excitation chez des adultes avertis, qu'en est-il chez des ados qui se découvrent mutuellement ? Démarrer sa vie sexuelle en se tapant dans les boyaux, ça remue un peu les tripes. Il y a sans doute certains d'entre nous qui associent encore les séances de prévention à la traditionnelle distribution de préservatifs. C'est pas le cœur de vos interventions, on le comprend, mais quand même, c'est le titre d'un chapitre, il reste du boulot dans la négo du préso, avec ces deux chiffres à retenir, plus 30% d'infections sexuellement transmissibles en France entre 2020 et 2021, et puis cette chlamydia qui est la première cause d'infertilité en Europe, donc c'est encore un sujet, même si ce n'est pas que ça.
Oui, c'est encore un sujet. Alors moi, j'essaye de toujours me renseigner un petit peu avant, et quand l'info était faite par l'infirmière ou une autre personne, je pense souvent à l'infirmière scolaire, quand il y en a, quand elles ont un peu de temps pour le faire, parce qu'elles sont quand même souvent sur plusieurs établissements. Mais quand c'était fait par l'infirmière, la question IST, MST, ça me permet de m'enlever une partie, vu que je les vois d'auteur, je suis obligé de faire des choix. Et c'est vrai que depuis quelques années, le choix est plutôt sur le repérer un petit peu ces rôles de genre que la société nous impose. Et comment les rapports de domination sont induits par ces rôles de genre. Et donc ça nous amène à la question de la relation à l'autre, du consentement et des violences sexistes et sexuelles. C'est vrai que c'est un volet que moi je travaille beaucoup depuis quelques années. Mais du coup, je ne peux pas forcément faire les IST et MST, sauf si le sujet émerge et que, bien évidemment, s'il y a des questions qui viennent de la classe, soit pendant l'atelier, soit à la fin quand les jeunes viennent nous voir parce qu'ils ont une inquiétude, parce que voilà, rupture de capote, ou parce qu'ils n'ont pas utilisé de préservatif et que l'animation a un peu réveillé leur inquiétude, à ce moment-là, je travaille avec eux, quoi.
Donc ça fait que vous parlez d'abord d'identité, de construction sociale, de stéréotypes, de l'état de la relation et du consentement avant d'évoquer le sexe, ses risques, on en parle souvent, mais aussi le plaisir. Tout ça dans un contexte particulier, avec des adolescents qui sont concernés par de nouveaux et de nombreux enjeux. Il y en a plusieurs qui sont évoqués dans votre ouvrage, mais l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, le backlash avec un mouvement de masculinisme présent ici aussi, en France. C'est peut-être là que j'ai envie de vous entendre sur le contexte que vous voyez dans les classes et puis peut-être démêler un peu les idées reçues qu'on a sur cette jeunesse aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'elle est réellement ?
J'essaye de pas de voir forcément qu'un regard sombre parce qu'il est déjà bien instrumentalisé par beaucoup de médias et les paniques morales sont nombreuses et variées pour rendre cette société encore plus anxiogène qu'elle l'est déjà. Mais donc j'essaye d'amener un petit peu autre chose, même si bien évidemment, alors c'est vrai quand on me dit les jeunes, déjà c'est super large en termes de d'environnement socioculturel, de territoire, ne serait-ce que même d'une classe à l'autre dans un même territoire, enfin dans un même établissement scolaire, en fonction des dynamiques de groupe, en fonction des amitiés ou des inimitiés, enfin bon, c'est vraiment assez complexe d'arriver pour moi à faire une cartographie forte de ce que sont les jeunes aujourd'hui. Alors après, il y a des faits très clairement qui sont présents. Les réseaux sociaux ont amené leur dimension positive par le côté communautaire et les échanges communautaires avec donc entre pairs qui ont amené effectivement qui permettent de pour beaucoup de jeunes de se sentir beaucoup mieux dans leur identité, par exemple leur identité de genre ou dans leurs orientations sexuelles. Et le mauvais côté, on le connaît tous et toutes, hein, c'est bien évidemment le cyberharcèlement, entre autres, avec toutes ces variantes, et puis l'arrivée, bien sûr, avec l'IA, des deepfakes, des images à caractère pornographique fabriquées à partir de visages de jeunes de l'établissement. Et puis oui, toute la sphère masculiniste qui est présente et qui est assez suivie. Alors c'est toujours compliqué de savoir l'impact que ça peut avoir parce que il y a beaucoup de jeunes qui se moquent aussi de ces discours. Certains peuvent être impactés, mais comme moi je les vois en groupe, c'est toujours difficile d'arriver à déterminer si lesquels sont vraiment vraiment touchés et sensibles à ce qu'ils entendent, ou si c'est un jeu de groupe et une posture un peu pour par rapport à l'animation. Donc, moi, je fonctionne avec tout ça en fait un peu comme avec les drogues, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire de la réduction des risques. Quelles sont leurs consommations, quel impact a leur consommation sur leur existence personnelle, sur leur relation à l'autre, et est-ce qu'ils arrivent à un moment donné à percevoir ou les inviter à essayer de percevoir à quel moment ils sont en difficulté avec ce produit, quoi. C'est-à-dire le contenu des réseaux et de ce qu'ils voient sur les sites ou tout un tas d'autres choses qui concernent, en fait.
Et il faut ajouter que la jeune génération n'est pas la seule qui est concernée par l'impact des discours masculinistes qu'on trouve en ligne. D'après le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes en 2023, 23% des hommes et toute génération pensent qu'on en fait trop sur les agressions sexuelles. C'est un des chiffres qu'on découvre dans l'ouvrage. Concernant l'accumulation d'expériences sexuelles, les garçons ont souvent un argument qui leur semble irréfutable. Leur loi dite du serrurier. Pour eux, une clé peut ouvrir plusieurs portes, mais qui utiliserait une serrure qui aurait été ouverte par des clés différentes ? En général, ils sont très fiers de leur trouvaille et n'imaginent pas qu'ils sont juste en train d'objectiver les corps. Et puis, un matin, à Noisy-le-Sec, dans le 93, j'ai eu la révélation d'un miracle numérique. « Monsieur, j'ai vu sur internet ou je sais pas où que si on se fait dévierger et qu'on attend 6 mois sans rien faire, et ben le truc, l'hymen y repousse !» a assuré une fille. La classe a pouffé un peu, mais pas trop, car on sait jamais. Si c'était vrai, ça pouvait sérieusement dépanner. « Sur le Coran de la Mecque, monsieur, il repousse, je l'ai vu sur internet !» a-t-elle insisté. Bien évidemment, j'ai débunké ce fait céleste, mais il en dit long sur le poids de cette responsabilité qui incombe aux femmes. Peut-être sur un autre sujet, sur celui des identités de genre et de la sexualité et de ce qui bouge dans cette jeunesse. Est-ce que vous avez le sentiment d'une jeunesse qui est plus libre sur ces questions-là ? Je crois que c'est 22% des 18-30 ans qui ne se sentent ni homme ni femme. Donc pour le coup, là, il y a un vrai gain de liberté dans ces générations que vous côtoyez ?
Oui, je trouve que la plupart des études, elles sont faites sur les plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de la sexualité des jeunes. mais en fait on parle de la sexualité des jeunes adultes. Donc collège-lycée, moi j'ai quand même plutôt des jeunes qui sont, pour la plupart, sont pas dans une sexualité active, sont pas forcément dans, peuvent être en recherche d'identité, mais sont pas sur une affirmation d'identité forte. Pour la grande majorité, hein, parce que ne serait-ce que la question du groupe qui veut, qui peut bien évidemment jouer. Et c'est vrai qu'il y a des établissements scolaires où il y a des jeunes qui vont plus facilement parler de leur non-binarité ou de leur fluidité, et d'autres peut-être qu'ils le vivent ou ils le sont, mais ne vont absolument pas en parler. Donc, ça reste assez. Je pense que c'est un gros chantier, c'est présent. En tout cas, ils sont. J'allais dire tous au courant, bah non, parce que cette année, j'ai eu pas mal de classes où les jeunes. N'avait jamais entendu parler de la non-binarité, par exemple. Donc, il y a quand même des grosses différences socioculturelles, environnementales, de sensibilité, la question religieuse qui rentre en compte aussi, parce que quand il y a Adam et Ève, forcément, il n'y a pas la place à la non-binarité. Voilà, donc, on parle beaucoup de déconstruction chez ces jeunes autour de l'identité de genre. Je pense qu'ils sont déjà en construction, donc ils sont avec plein de questions. Ils ne sont pas encore au stade de la déconstruction, et peut-être que ça vient après les 18 ans, 20 ans, une fois qu'ils sont en univers soit du travail, soit des études supérieures, soit, je ne sais pas, du voyage, j'en sais rien, ou pour ceux qui s'en sortent le mieux. Mais cette question, je trouve qu'elle ne se pose pas tant que ça avant, en fait.
On laissera les lecteurs aller découvrir le détail des sujets que vous abordez avec les ados. Il y a question pêle-mêle, vous avez cité la religion, mais aussi du mouvement MeToo initié en 2017, du poids et plus largement des corps, du rapport des ados au porno et à la prostitution. Moi, ce que j'ai apprécié dans l'ouvrage, c'est que vous racontez aussi la pression qui repose sur les animateurs de prévention qui sont, je cite, pris dans la bagarre de sujets clivants. Votre rôle, vous le répétez, c'est de visibiliser ces sujets et tenter de rendre les jeunes plus libres et le monde moins violent, mais que vous êtes souvent tiraillé entre des injonctions contradictoires émanant de différentes institutions, associations.
Moi, je dirais même qu'avec le vote sur la dernière mouture de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, il y a des gens très mal intentionnés qui nous ont mis une cible dans le dos, en fait. Hein, genre Pascal Praud et compagnie, enfin bon, il n'y a pas que lui, hein, mais la sphère extrême droite, des groupuscules, on va dire, religieux intégristes, enfin des gens qui vivent la religion de manière assez intégriste, et puis tout un tas de complotistes qui sont venus depuis le Covid. Donc avec des fake news qui sont hyper dangereuses, c'est-à-dire que balancer qu'on apprend aux jeunes à faire des fellations en primaire ou se masturber, ou qu'on leur parlerait d'un sexe d'une sexualité d'une manière très crue, que les drag queens vont lire des contes pour enfants en maternelle. Enfin, toutes ces fake news ont fait qu'on est dans un climat assez violent à notre encontre. Et en même temps, on rentre dans une institution qui est déjà en difficulté et que pas mal de sujets sociétaux. Donc ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Donc moi, je pense que notre part, enfin moi, personnellement, ma part militante, elle m'aide beaucoup parce que elle m'a donné un socle assez fort qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Mais je fais attention. Je pense que c'est important à pas mélanger les choses entre la sphère militante et la sphère éducative. Même si forcément le corps étant politique, on a un métier qui est fortement militant, mais c'est quelle limite je vais poser dans mes interventions pour éviter d'aller effectivement ne pas tout mélanger et respecter aussi l'environnement de ces jeunes, en fait, hein, qui est pas dans leur milieu personnel, familial, qui est pas forcément le même, bien évidemment.
En dehors des classes, je me sens souvent pris entre deux feux. D'un côté, des militants militantes prêtes à sauter sur la moindre maladresse, non pas pour faire de la pédagogie, mais pour nous clouer au pilori de la transphobie. Et de l'autre, des professionnels de santé, intellectuels ou universitaires, souvent un peu old school, qui veulent reprendre la main sur un changement profond de société qui leur échappe. Curieusement, on se bat contre la binarité de genre et on nous impose une binarité de choix entre deux camps qui s'affrontent. Donc, on a déjà évoqué là ce programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. La sexualité, c'est pour les niveaux collège et lycée. C'est le programme qui va donc être mis en place à l'école en France à partir de septembre, de la maternelle à la terminale. C'est un projet qui a été adopté en début d'année. Avant ça, il y avait déjà des séances obligatoires, mais pas toujours appliquées. Je voulais bien préciser que vous, vos interventions, elles ne s'inscrivent pas en fait dans ce cadre des 3 séances obligatoires par an ?
Si elles sont comptabilisées, c'est-à-dire que l'idée de faire les 3 séances, c'est être un peu complémentaire, c'est-à-dire qu'il y en a une qui peut être faite par des profs, voire 2, voire 3, parce qu'il y a des établissements où c'est que les profs ou l'infirmière scolaire ou la CPE qui vont le faire, ou l'infirmier scolaire, d'ailleurs je dis d'infirmière, mais il y a aussi des infirmiers. Et donc elles peuvent être comptabilisées, en fait, bien évidemment, elles le sont. Hein.
Et donc, à la fin de l'ouvrage, dont je peux redonner le titre, « Pubère la vie à l'école des genres », vous lanciez un appel « Balancer du fric pour la prévention et l'éducation ». Vous estimez que cet appel, il a été entendu ou il faut encore voir concrètement comment ce programme il va être déployé, avec quels moyens ?
Ah, je ris un peu, je ris tristement parce que il s'est passé un an et demi, 2 ans depuis la sortie du livre, je crois. Un an et demi, ouais. Et là, c'est une catastrophe, quoi. On va attaquer une rentrée catastrophique. Le planning familial est attaqué de toutes parts. Les subventions sont diminuées. Je suis en contact avec pas mal de CIDFF qui sont en grosse difficulté, dans le centre d'information pour le droit des femmes et de la famille. Donc, ils font aussi des interventions scolaires. Les centres de santé sexuelle, il y en a pas mal qui ferment. Entre autres, je pense à la Drôme, où 7 centres de santé sexuelle vont fermer. Donc, il y a une baisse énorme des subventions de partout, même le CRIPS sur qui je travaille a pris moins de 10%, alors que le CRIPS est une vraie institution depuis très longtemps. Non, on s'attend à une rentrée très très chaude. Pour être très clair, si je veux être un peu militant, c'est une attaque idéologique très, très forte du gouvernement et des gens qui sont autour, qui gravitent autour de ce gouvernement. Mais pas que le gouvernement, parce qu'on est aussi en région et donc aussi au niveau départemental, c'est une attaque très forte des réacs sur notre métier.
Donc c'est le moment où je glisse quelques mots donc de Céline, qui est aussi membre de Parents et Féministes, qui me disait un peu la même chose. Attention à ne pas paraître trop optimiste, parce qu'il manque des moyens pour la formation des professeurs, pour les associations, un gros sujet actuellement. Et les professeurs n'auraient pour le moment pas encore de matériel, livres, brochures, etc. pour leur permettre de s'emparer de ces enseignements à la rentrée. Le risque, c'est que les enseignants se retrouvent plus que les associations, enfin un peu seuls, avec ce programme EVARS qui est assez quand même ambitieux. Enfin, il y avait de l'espoir fondé sur ce nouveau programme, mais que les associations soient plus en capacité de pouvoir intervenir comme elles devraient.
Oui, je crois que même officiellement, il a été dit qu'en primaire, du moins, les associations n'étaient plus les bienvenues, au niveau de l'école élémentaire, en fait.
On peut ajouter que cet ouvrage, donc « Pubère la vie à l'école des genres », qu'on peut retrouver dans un format poche aux éditions Détour, ce sont aussi plein de ressources que vous partagez si on souhaite aller plus loin sur toutes les questions qu'on a évoquées. C'est les ressources que vous exploitez avec les jeunes, puisque vous citez plein d'exemples en fait d'interventions et donc de supports qui y sont associés. Il y a des ouvrages, des travaux photographiques, des clips vidéo, des exemples de documentaires et de séries à aller regarder. Ces ressources-là, est-ce qu'on peut peut-être dire un mot sur le rôle qu'elles jouent ? Elles permettent de rendre le sujet peut-être plus accrocheur aussi pour les jeunes avec qui vous travaillez ?
Oui, bah oui, c'est une génération qui est quand même très visuelle, donc l'utilisation de la vidéo s'est quand même sérieusement augmentée depuis. Moi, j'utilise beaucoup plus la vidéo qu'il y a 20 ans, par exemple, très clairement. Donc des projections de petits films ou des petits trends TikTok ou voilà. Donc et puis l'idée c'est d'amener des supports un peu différents pour lancer un petit peu les débats et les échanges. Et l'idée du bouquin, c'était ça aussi, c'était mettre beaucoup de ressources et parler vraiment concrètement de ce que je fais dans ces animations, ce qui est partagé par de nombreux collègues, hein, de nombreuses collègues, mais pour montrer quand même que bon bah voilà, c'est concret, que les personnes peuvent aller vérifier ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme document. De quoi on parle, et l'idée c'était d'amener une vraie expérience de terrain pour qu'on sorte un peu de ces rumeurs fausses véhiculées par qui on sait, quoi.
Didier Valentin, je vous représente, donc vous êtes mieux connu sous ce pseudonyme de Docteur Capote qui vous tient la peau. Vous êtes animateur de prévention en et hors milieu scolaire et l'auteur de ce livre récemment réédité dans une version poche aux éditions du Détour et que Parents et Féministes fait gagner à plusieurs internautes. Le détail est à retrouver en ligne. Merci de nous avoir accordé cet échange.
Bah, merci à vous de m'avoir contacté.
Merci Lucie Loipre. Lucie a été journaliste à Canal B pendant 7 ans en charge de l'info locale. Et pour tous ceux et celles à qui la voix et le professionnalisme de Lucie manquent, attention, spoiler alerte, il se pourrait qu'elle revienne de temps en temps à l'antenne de votre radio préférée dès la rentrée. Peut-être, hein, je laisse le conditionnel, en tant que bénévole, c'est une affaire à suivre. En tout cas, Lucie Loipre est membre du collectif Parents et Féministes et c'est dans ce cadre qu'elle a réalisé l'interview de Docteur Capote. De Boulevanie, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez les 4 épisodes de Femmes et Médias, les rencontres de l'égalité, sur le site de Canal B à la rubrique De Boulevanie. On va se quitter en musique avec 2 morceaux à suivre, Lizzie Young et son Kill All Men, puis le groupe Tout Bleu et son titre Baleine. Prenez soin de vous, protégez-vous du soleil, des gens toxiques, des IST et bel été. Salut! Thank you.
anime.
Je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas.